débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, le débat BBC Afrique, Africa Radio, c'est tout de suite et avec Francis Laloupo qui est à Brazzaville au Congo. Botanyayo, Francis.
Bonjour Liliane, je suis effectivement exceptionnellement à Brazzaville. Je vous salue depuis sur les rives du fleuve Congo. Oui. Je peux vous assurer que tous les Brazzavillois vous saluent affectueusement.
Il paraît que vous avez changé de nom, vous vous appelez maintenant Mwana Mboka. C'est bien cela?
On m'appelle comme ça de temps en temps dans les rues de Brazzaville et je vous promets que la dernière partie de l'émission sera entièrement diffusée en Lingala.
D'accord Francis. Donc le débat BBC Afrique, Africa Radio, nous vous l'avons promis la semaine dernière, c'est le nouveau nom de votre magazine. Macky Sall a officiellement entamé son second mandat cette semaine après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en présence de 18 de ses homologues africains. L'opposition, en revanche, était absente. Était-elle invitée? Oui, a affirmé la cellule des relations presse de la présidence à la BBC. Nous n'avons reçu aucune invitation, a répliqué un responsable de la communication de l'opposant Ousmane Sonko, arrivé troisième à la présidentielle du 24 février dernier. Quelles doivent être les priorités de Macky Sall pour les 5 prochaines années? Ce quinquennat est-il le dernier? Analyse à suivre. Que va-t-il se passer en Algérie et comment les Algériens vont-ils gérer la transition? Le président Abdelaziz Bouteflika a été forcé de partir après 20 ans de pouvoir. Il a démissionné suite à des semaines de manifestations et la pression de l'armée. Celle-ci avait exigé l'application immédiate de l'article 102 de la Constitution qui prévoit la démission du président en cas d'empêchement. Bouteflika parti, oui, mais est-ce la fin du système et la paix en Algérie est-elle menacée? Nous en débattrons avec nos invités. Autre sujet de débat, l'impasse sécuritaire au Burkina Faso devenue un enjeu national. Qu'est-ce qui sortira des consultations entre le président Rochmar Christian Kabore et des partis politiques de l'opposition et de la majorité? Les solutions proposées seront-elles prises en compte et permettront-elles enfin de mettre fin à la complexe crise sécuritaire qui plombe le pays ces derniers mois? Décryptage dans quelques instants. À vous Francis, d'abord le plateau.
Notre grand témoin invité dans cette édition, il est avec vous Liliane à Dakar dans le studio du BBC Afrique, Pape Biram Touré, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, vice-président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Monsieur le député, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un technicien en génie civil de formation. Vous avez été élu député en 2012, puis réélu en 2017 sur la liste de la coalition présidentielle Beno Bok Yakar. Vous êtes depuis 2012 vice-président du groupe parlementaire de la dite coalition. Vous êtes également le maire de la commune de Diakor. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre confrère invité dans cette édition, il est avec nous au téléphone depuis Alger, Mustapha Amouche, chroniqueur au quotidien algérien Liberté. Mustapha Amouche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bonjour, de BBC.
Voilà, ils vous entendent bien. Voilà pour le plateau, Liliane. À vous, à Dakar.
Francis, on va commencer donc avec le Sénégal. Après une cérémonie de prestation de serment très courue et exceptionnelle dans l'histoire du Sénégal, selon les mots de certains proches du président sénégalais, voici Macky Sall, donc, face aux défis très nombreux qui l'attendent. Il a lui-même décliné quelques-uns dans son discours d'investiture mardi dernier, compte rendu avec Siegfried Maouli Diounoupo de BBC Afrique.
Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
Macky Sall a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, qu'il a ensuite installé dans ses fonctions de chef de l'État de la République du Sénégal pour un mandat de 5 ans. Il a promis d'être le président de tous les Sénégalais, une main tendue à ses principaux opposants qui n'étaient pas présents à cette cérémonie d'investiture.
Je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces politiques.
La question de la formation et de l'emploi des jeunes est le premier chantier du chef de l'État.
Cette jeunesse restera au premier rang de mes priorités.
Le président sénégalais a aussi insisté sur l'amélioration du cadre de vie. Il y a urgence à mettre fin à l'encombrement urbain, l'insalubrité et aux constructions anarchiques, affirme Macky Sall. La réforme de l'administration est la quatrième priorité pour permettre au Sénégal d'être plus compétitif sur le plan économique.
Voilà, le top 3 des priorités donc, du président Macky Sall annoncé dans son discours, comme nous venons de l'entendre, monsieur le député Birim Touré, sont la jeunesse, l'amélioration des conditions de vie des femmes, qu'il a d'ailleurs appelé héroïne au quotidien, mais aussi lutte contre ce qu'il a appelé l'insalubrité et l'encombrement urbain. Ces trois priorités correspondent-elles réellement aux attentes exprimées par les Sénégalais des zones urbaines et rurales pendant la campagne électorale?
Oui, je vous remercie d'abord de votre invitation. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le président Macky Sall, qui s'adressait aux Sénégalais après sa prestation de serment, a été réélu après un mandat de 7 ans. Ça veut dire qu'il a eu à exercer des politiques publiques pendant 7 ans, cette année. Et quand il venait en 2012, il avait trouvé une situation économique qui était marquée par une croissance de 1,8% avec un déficit budgétaire de 6,7%, une inflation aussi de 3-4%. Alors, il avait mis en place un certain nombre de politiques publiques, d'abord pour régler cette question de disparité qui était là dans le Sénégal, où les ressources du pays étaient distribuées de façon inéquitable, et a initié un certain nombre de réformes et de programmes qui ont été mises en œuvre. Je peux citer le PIDC, je peux citer Promoville, je peux citer aussi la politique agricole qui a permis d'accroître la croissance, la production céréalière, la production
algérienne. Là, vous défendez encore le bilan de Macky Sall. Il a défendu son bilan, il a été réélu, dites-vous, parce qu'il a bien travaillé. Vous venez de citer quelques actions qu'il a menées. Mais ma question était de savoir ces trois priorités telles qu'il les a déclinées. Est-ce que c'est ce qu'attend le Sénégalais de la zone urbaine et de la zone rurale? Je veux dire, la majorité des Sénégalais, est-ce que c'est ce qu'ils attendent comme principaux défis du président Macky Sall?
Oui.
Est-ce qu'il est en phase avec les attentes des populations?
Oui, justement, je voulais juste rappeler un peu le départ qui lui a permis quand même de définir ses priorités. C'est après un diagnostic qui a permis de définir ses priorités quand il s'est agi de mettre en œuvre une politique pendant 7 ans. Effectivement, ces priorités sont en phase avec la demande des populations, puisque exprimées par les populations pendant la phase de mise en œuvre du PSE dans sa première phase,
parce que aussi
le plan Sénégal émergent, parce que pendant que ce plan se déroulait aussi, les acteurs étaient en contact avec les populations et recueillir les préoccupations donc, qui ont été quand même synthétisées dans un document et prises en compte dans la phase 2. C'est pour ça que ces priorités ont été définies et il est apparu que la jeunesse occupe une place prépondérante dans ces priorités du président Macky Sall. Et pour régler ces questions, effectivement, il est parti d'un diagnostic pour savoir que la question de l'employabilité pose problème et un début de solution avait été mise en œuvre dans son premier septennat. Puisque nous avons dans le marché de l'emploi une forte demande, mais il est constaté que cette demande n'est pas en adéquation avec l'offre de l'emploi. Parce que tout simplement, nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas formée. Et sur ce plan, le président a promis d'apporter des réponses qui ont déjà démarré par la création de centres promotionnels. Mais
merci.
Effectivement, la mise en œuvre d'instruments pour apporter un accompagnement à cette jeunesse, donc qui devrait être entrepreneur, mais aussi créer, parce que l'État n'a pas la vocation de créer des emplois directement, mais de créer les conditions pour que le secteur privé crée cet emploi-là.
Merci.
Effectivement, les femmes, et vous l'avez dit aussi, le cadre de vie, nous l'avons constaté, toutes les villes qui se sont développées aujourd'hui l'ont été par leur cadre de vie, l'ont été aussi par le comportement des personnes qui y vivent pour, en tout cas, améliorer les cadres, les conditions de développement de la ville. En tout cas, ce
Merci
qu'il
beaucoup.
Faut retenir, c'est qu'il y a une base donc, qui a été faite donc, dans le PSE 2. Aujourd'hui, il s'agit de relancer donc, pour que les conditions de l'émergence maintenant soient véritablement au point.
Merci.
Pab Biram Touré, moi je voulais voir avec vous dans quel contexte politique se projette tout cela, parce que le président en a appelé désormais à un dialogue avec toutes les formes, toutes les forces politiques, pardon, et les réactions sont plutôt réservées hein, à cet appel du président Macky Sall. Quelques exemples, hein, je prends par exemple la réaction d'Idriss Asek ou Ousmane Sonko, deux candidats malheureux à cette dernière présidentielle. Idriss Asek qui estime qu'il ne peut dialoguer avec une personne habituée à renier sa parole, je le cite. Et pour Ousmane Sonko, cet appel au dialogue de Macky Sall est tout simplement un non-événement. Alors en fait, ma question est celle-ci, monsieur le député. Il faut dire que quand on entend les uns et les autres, en tout cas les forces, les adversaires de Macky Sall, c'est généralement un procès en insincérité hein, qui est fait au président Macky Sall. Comment résoudre cette crise de confiance persistante entre le pouvoir et ses adversaires? Une crise de confiance qui ne date pas d'hier. Hein. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle, en tout cas tout au cours du précédent mandat.
Oui, il faut noter que le président est déjà en conscience avec cette posture d'appel au dialogue. Il l'a réitéré, c'est un appel sans exclusive, hein, un dialogue constructif et ouvert.
Oui, mais pour l'instant, c'est une fait de non-recevoir de la part des forces en face.
Oui, bon, c'est une des parties donc, qui doivent participer au dialogue. Mais le président s'adresse à toutes les forces vives de la nation, donc qui quand même sont des acteurs pour le développement du pays, à venir dialoguer, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays. Forces politiques, forces économiques, forces sociales. C'est tellement clair
mais
qu'il y a...
Un dialogue pour quoi faire, monsieur le député, au fond? Parce que le Sénégal n'est pas réputé être en crise, en conflit majeur.
Oui, mais c'est un dialogue dans une dynamique de développement, une dynamique de construction ou d'inclusion de politique sociale que le président...
Vous avez remporté les élections, pourquoi vous ne vous contentez pas de gouverner et laisser l'opposition s'opposer? Pourquoi dialoguer s'il n'y a pas de crise?
Mais justement, je vous dis que le dialogue n'est pas dans un contexte de crise. C'est un dialogue qui est permanent, que le président a inséré de façon permanente. Même pendant que le président exerçait son septennat, donc en milieu de septennat, il a appelé au dialogue, il a même tenu donc des séances de dialogue et de discussion avec des acteurs politiques, des acteurs sociaux, des acteurs économiques. Donc c'est pour continuer à construire les instruments de développement du pays, mais avec une démarche inclusive, parce qu'il y a des Sénégalais qui sont dans le secteur politique, qui sont dans le secteur économique et social, et qui ont peut-être des préoccupations et qui ont aussi
Est-ce
des propositions à donner.
Est-ce que cela signifie que les deux principaux leaders de l'opposition, qui sont aujourd'hui Idriss Asek et Ousmane Sonko, s'ils ne participent pas à ce dialogue, est-ce qu'il aura tout de même lieu?
Mais justement, ils ne sont pas les seuls acteurs.
On peut se passer de ces deux-là, c'est ce que vous dites.
Mais justement, s'ils décident de ne pas participer au dialogue, mais le dialogue va se poursuivre, parce que tout simplement, il y a d'autres acteurs politiques, d'autres acteurs de la vie économique et sociale qui sont là et qui participent au développement du pays. Maintenant, dialoguer aussi n'est pas trouver des compromis ou avoir des situations de compromission dans la conduite des affaires de l'État.
C'est pour ça que je vous posais la question sur la nature même du dialogue et ses objectifs. Parce que dialoguer, pour quoi faire? Pour consulter, pour trouver, je dirais, en fait, pour que le pouvoir rende compte de ses actions, associer l'opposition à la gestion des affaires, au programme du président de Macky Sall. À quoi servirait un dialogue dans une situation, plutôt, je dirais, dans une démocratie relativement apaisée, au fond?
Oui, je ne saurais pas dire dans les détails les termes de référence qui vont constituer ce dialogue. Mais je peux, dans le principe d'appel au dialogue, dire que le président, comme il a toujours eu à le faire par le passé, donc consulte les acteurs politiques, économiques à venir participer au dialogue. Maintenant, ce dialogue peut être articulé autour, effectivement, de ces programmes, parce que, aussi, c'est des acteurs qui ont leur mot à dire et qui pourraient peut-être, de façon inclusive, apporter quelque chose, ou que ce soit des critiques, que ce soit des contributions.
Mais cela se passe à l'Assemblée nationale, en général, ça, hein?
Oui, cela passe à l'Assemblée nationale. Mais il faut comprendre que si, effectivement, il y a des acteurs qui veulent participer à la construction de projets ou de programmes, et que le président leur offre cette possibilité, pourrait apporter leur contribution. Mais je suis d'accord avec vous que le lieu par excellence de dialogue politique est l'Assemblée nationale. D'accord. Et le président a le pouvoir de proposer l'Assemblée nationale qui, une fois la majorité vote, donc cela est appliqué. Mais il donne la possibilité à ces acteurs de participer à ces propositions, à ces projets. Et donc, je pense que c'est un esprit d'ouverture et de générosité et qui permet à tout acteur de participer à la construction nationale. Donc, de ne pas se limiter à ses positions politiques ou politiciennes. On a dépassé cela, mais il faudrait que ces acteurs-là, s'ils sont vraiment préoccupés par le développement du pays, donc répondent à ce dialogue-là et apportent leur contribution.
Justement, toujours dans le cadre de ce dialogue, est-ce que inviter ces leaders politiques à la cérémonie d'investiture du président Macky Sall n'aurait peut-être pas contribué à... Est-ce que cela n'aurait pas contribué à détendre l'atmosphère? Pourquoi n'ont-ils pas été invités? Alors que le président prend le dialogue, il tend la main, il souhaite le dialogue. Dès l'annonce de sa victoire, il a parlé de ce dialogue.
Oui, ils disent ne pas être invités. Je ne sais pas dans le protocole du président, mais je pense qu'ils ont été tous invités, d'après les informations
que j'ai
eues.
Ce n'est pas ce que dit le camp.
Voilà, ce n'est pas ce que dit le camp de... Je vous dis, par exemple, nous, à l'Assemblée nationale, toutes les cartes, tous les députés ont reçu, en tout cas, des cartes d'invitation.
Je parlais de l'investiture.
Oui, pendant l'investiture.
Donc, je parlais de l'invitation de ces leaders, ces quatre adversaires à la présidentielle, à la cérémonie de son investiture.
Oui, je vous dis déjà, vous le confirme, que l'Assemblée nationale, et parmi ces leaders-là, il y a des députés. Tous les députés ont reçu des talons d'invitation pour répondre à l'invitation de cette investiture-là. Et vous avez vu qu'il y a des députés qui sont parmi ces leaders politiques-là, notamment celui que vous avez cité et qui n'a pas été là. Donc, je pense qu'ils ont reçu des invitations. Maintenant, ils n'ont pas su faire la distinction entre les cérémonies politiques et les cérémonies républicaines et institutionnelles. Et il s'est agi donc de mettre quand même...
Est-ce que l'opposition n'est pas dans sa logique ? N'ayant pas reconnu la victoire de Macky Sall.
Non, je pense qu'ils ont complètement passé à côté. Ils ont tort de ne pas reconnaître cette victoire. Donc, ils se sont comportés en mauvais perdant parce que les élections ont été claires et transparentes. La communauté nationale et internationale, africaine et européenne, donc, a salué la réussite de ces élections, la transparence de ces élections. Et les résultats sont là. Le système électoral sénégalais est tel que personne ne peut tripatouiller des élections. Donc, ils ont été gagnés à la suite des résultats des urnes. Ils n'ont pas voulu accepter. Bon, c'est leur droit le plus absolu, mais cela n'empêchera pas que les institutions continuent à fonctionner. Donc,
permettez-moi, Francis.
Monsieur le député.
Oui. Allez-y, Francis.
Monsieur le député. Oui. Comment faire oublier, désormais, maintenant que vous engagez dans un nouveau mandat, comment faire oublier ce reproche qui a été fait constamment au président Macky Sall pendant tout son précédent mandat, c'est-à-dire d'avoir mis en place une politique d'exclusion de plusieurs forces de l'opposition, y compris d'adversaires politiques.
Mais comment ?
Ce reproche était fait constamment au président Macky Sall.
Oui, mais vous savez, l'opposition accuse à tort.
Comment le faire oublier pour revenir à des relations plus apaisées avec l'opposition ?
Oui, non, je pense que c'est l'opposition qui doit quand même s'amender et être un peu constructive. On ne peut pas, pendant tout le temps, faire de la politique, s'adonner à des stratégies politiciennes qui nous amènent à rien du tout. Il n'a jamais été question d'éliminer quelconque adversaire. Non, le jeu démocratique du Sénégal était là clair, défini par des lois, des règlements et un système donc électoral qui a été là. Je pense que personne ne peut, en tout cas, donner une preuve palpable qu'il a été écarté d'une manière ou d'une autre, où il a été, en tout cas, ses résultats ont été tronqués. Maintenant...
Macky Sall avait annoncé avant la présidentielle que s'il était réélu, il pourrait accorder la grâce présidentielle à deux acteurs majeurs, en tout cas, sur la scène politique sénégalaise, Khalifa Sall et Karim Wad. Est-ce que cette promesse est toujours... inscrit dans son programme.
Merci, vous allez répondre à la question juste après la pause.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
suite de la BBC Afrique, Africa Radio, en duplex aujourd'hui à Dakar et Brazzaville, exceptionnellement à Brazzaville. Notre grand témoin invité dans cette édition, dans le studio BBC Afrique à Dakar, Pape Biram Touré, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, vice-président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle et notre confrère invité depuis Alger au téléphone, Mustapha Amouche, chroniqueur au quotidien algérien Liberté. Alors, monsieur le député, vous voulez que je vous répète la question ou vous l'avez bien saisi?
Oui, j'ai bien saisi, sauf que je dois préciser que ce n'était pas une promesse du président Macky Sall, c'était une réponse.
Ça a été évoqué fortement.
Oui, je pense qu'il faut le mettre dans son contexte. C'était à la réponse d'une question d'un journaliste qu'il serait possible de le gracier. Et donc, il a dit que bon, ça peut être une possibilité. Donc, je pense que c'était pas dit
comme ça. Il n'y avait pas le mot possibilité. Il a dit, qui pourrait effectivement...
C'est
une possibilité.
Mais c'est la même chose. Voilà. Donc,
Okay. Francis, je propose que, avant de repartir tout à l'heure encore dans les priorités et les défis du second mandat de Macky Sall, d'écouter Mustapha Amouche, un commentaire général sur l'investiture du président Macky Sall et en l'absence de l'opposition, alors que 18 chefs d'État africains étaient présents.
Oui, je voulais dire que ce que nous inspire une élection démocratique dans un autre pays d'Afrique, vu d'ici d'Alger, un pays en crise politique depuis un certain nombre d'années, c'est que nous avons toujours la crainte de ce démon qui frappe les démocraties africaines régulièrement, le démon du mandat de plus, du troisième mandat et suite, et la tentation de la présidence à vie, même dans des démocraties établies comme le Sénégal, qui est un pays pionnier en matière de multipartisme, la tentation dynastique a été vérifiée à un moment donné. Donc nous avons toujours cette crainte et nous sommes toujours heureux de voir des élections démocratiques se dérouler sans tentation de fraude, dans des conditions, disons, normales.
Merci.
Voilà. Et à ce que j'ai entendu du discours de campagne, le président Macky Sall a surtout un défi économique, social, de conditions de vie à relever. Et
merci beaucoup.
Voilà. On ne peut que se satisfaire de voir une élection démocratique réussi.
Merci Mustapha. Et justement, parlant des défis qui attendent le président Macky Sall, mais personnellement, moi qui vis à Dakar, j'ai souvent et très souvent d'ailleurs entendu les Sénégalais insister sur la baisse du coût de la vie, ce qui n'est pas vraiment apparu au rang des priorités du président. C'est pour cela que je demandais, est-ce qu'il est en phase avec la demande sociale et la demande du peuple?
Oui, je pense que il faut peut-être revenir un peu en arrière pour voir les efforts qui ont été faits pour.
Moi, je suis dans la perspective de l'avenir.
Oui,
mais ça a été fait. Mais est-ce que il y a des mesures qui vont être prises par rapport
même
au coût de la vie?
Les mesures prises dans l'avenir sont liées à ce phénomène de la réduction du coût de la vie. D'ailleurs, il ne faut pas oublier les efforts qui ont été faits en baissant les denrées de première nécessité. Et depuis lors, les prix sont stagnés, ne sont plus jamais montés.
Stable.
Il y a stable. Il y a aussi la diminution du coût de l'électricité. D'ailleurs, il y avait un problème d'avoir de l'électricité. Maintenant, c'est en abondance. Le coût a été diminué.
D'accord.
Il y a le loyer. Il y a beaucoup d'autres.
Vous parlez de ce qu'il a déjà fait.
Maintenant, dans les perspectives, aujourd'hui, où il s'engage à donner beaucoup plus d'emplois aux jeunes, il s'engage à donner beaucoup plus de possibilités de création d'emplois ou d'autonomisation des femmes. Et dans ce secteur-là,
la réponse à la demande de réduction du coût de la vie, c'est l'emploi aux jeunes.
Oui, c'est l'emploi aux jeunes, c'est l'autonomisation des femmes qui, vous le savez, quand même constitue une frange de la population.
Je voudrais qu'on marque une petite pause sur les femmes. Deuxième priorité de Macky Sall. Est-ce que cela signifie plus de postes postes pour les femmes? Le prochain gouvernement s'annonce. Est-ce qu'on va observer l'application stricte de la loi sur la parité?
Oui, il faut se dire que la parité s'adresse aux postes électifs, donc tels que les postes à l'Assemblée nationale ou dans les mairies, et cela s'applique. Hein,
donc
s'applique
pas de
conformément.
Poste de nomination.
Voilà, les postes de nomination ne sont pas concernés par la parité. Maintenant, je pense que la politique du président Macky Sall, même dans son septennat, a accordé une place importante à la femme. Avec le programme de PIDC, l'autonomisation des femmes, il y a eu beaucoup de financements donc, qui s'adressent aux femmes. Mais il ne faut pas oublier surtout que les cibles doivent être les femmes rurales, de mon point de vue, qui sont dans des zones un peu défavorisées et qui continuent à s'adonner à des travaux durs, à des travaux de champêtre, à des travaux de domestique. Et le président en était conscient et a mis beaucoup d'argent avec le PIDC pour alléger les travaux des femmes en zone rurale. Mais récemment, avec cet instrument de l'ADER, qui est un instrument de financement rapide, donc pour que la femme soit créatrice d'emplois dans son secteur, et c'était vraiment un instrument d'autonomisation des femmes que le président maintenant compte renforcer, parce que la femme représente beaucoup donc dans la société.
Il a parlé d'héroïne au quotidien. Vraiment une dernière question avec une très brève réponse, et Francis, je vous laisse terminer avec lui.
S'il vous plaît.
À la question de savoir si c'est le dernier mandat du président Macky Sall, son ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a répondu en principe. Certains Sénégalais entendent que Macky Sall sera candidat en 2024. C'est bien cela?
Oui, vous savez, ça c'est un débat stérile que une certaine classe politique et une certaine classe de la société
civile... Vous ne pouvez pas dire stérile, puisqu'on en parle déjà. Aissata Tall Sall l'a déjà dit clairement, elle sera candidate en 2024, donc on y pense. Est-ce que Macky Sall sera candidat?
Non, pour le président et pour nous, le débat du troisième mandat ne se pose pas.
La question donc ce a n'est été pas déjà, le dernier.
La question a été déjà réglée par l'article 23 de la Constitution. Les interprétations fallacieuses et tendancieuses portent la marque des recalés qui refusent de faire le deuil de leur défaite. Mais il ne se pose pas un problème de débat de troisième mandat. Mais les Sénégalais ont envie de passer à autre chose.
Mais la Constitution prévoit que deux.
Mais je vous dis que cette disposition est réglée par l'article 27 de la Constitution. Le président Macky Sall est à son deuxième mandat.
Donc, le dernier.
Pourquoi aujourd'hui poser ce débat qui n'a pas de sens et qui est posé par une certaine classe politique?
Merci.
Mais
Francis,
je pense que le ministre Major a répondu, a dit que le président Macky Sall est à son deuxième, à son dernier mandat.
En ajoutant en principe. En tout cas, on a compris votre réponse.
Je voudrais même insister sur le fait que ce n'est pas un débat aujourd'hui qui se pose. Et la priorité est ailleurs. Maintenant, c'est alimenté par une certaine classe politique qui voudrait continuer ce débat et qui donne un peu, qui considère que c'est pour eux une matière à exister, une matière à polémiquer.
Je voulais qu'on termine cette partie de l'émission, monsieur le député, avec une explication, je dirais, presque idéologique de votre part, hein, sur le mot émergence, parce que ce mot est constamment prononcé par le président Macky Sall. D'ailleurs, il en a fait le socle de son mandat avec le plan Sénégal émergence. Que signifie concrètement cette émergence pour le pouvoir que vous représentez? Est-ce qu'il s'agit d'un horizon, l'aboutissement d'un long chemin de développement ou une nouvelle idéologie politique?
Oui, je pense que il faut le placer dans son contexte. Hein. Donc, l'émergence, pour nous, constitue aujourd'hui le développement économique et social de notre pays pour le hisser à des niveaux de développement connus. Donc, avec des croissances des pays développés, donc en réglant toutes ces questions donc, qui causent la problématique du développement de l'Afrique, donc des pays africains. Alors, notamment, avoir une bonne croissance, donc régler ces questions d'emploi, régler ces questions d'infrastructure, mais régler aussi ces questions de disparité pour que l'équité sociale y soit. Et donc, régler cette question d'autonomie des femmes, mais régler aussi cette question agricole et d'autosuffisance alimentaire, j'allais dire.
C'est un ensemble
des politiques qui hissent le pays à un niveau économique qui lui permettent d'être autonome, d'être souverain dans ses financements de développement et qu'on ne soit plus obligés à aller demander donc de l'aide ou demander aussi des financements pour développer nos pays, Merci. Que nous-mêmes, nous puissions financer notre propre développement.
Merci. Francis, si vous permettez, on Merci. Passe au prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité dans cette édition, Pape Biram Touré, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, vice-président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Notre confrère invité au téléphone depuis Alger, Moustapha Amouche, chroniqueur au quotidien algérien Liberté. On va se rendre justement à Alger avec vous, Moustapha Amouche, pour parler de la situation en cours en Algérie. Après la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, la situation demeure incertaine en Algérie, en principe. Et selon les prescriptions de la Constitution, l'intérim devrait être confié au président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, après la constatation, bien sûr, de la vacance du pouvoir par la Cour constitutionnelle. Un schéma rejeté par le mouvement de contestation qui continue de réclamer le départ de l'ensemble du système, c'est-à-dire celui de tous les hommes clés du régime de Bouteflika. Et face à cette intransigeance de la rue, l'armée propose une feuille de route, écartant de l'espace du pouvoir tous les proches de Bouteflika, dont certains seraient déjà en détention ou en résidence surveillée. Et c'est ce que l'on dit en tout cas. Toutefois, afin de prévenir toute prise en main de l'espace du pouvoir par l'armée, soupçonnée d'orchestrer une succession clanique, plusieurs associations de défense des droits humains, de jeunes, de femmes ou encore des syndicats ont appelé la population à poursuivre les manifestations ce vendredi afin, insiste-t-il, de, je cite, maintenir la pression jusqu'au départ de tous les responsables du régime. Fin de citation. Première question pour vous, bien sûr, Moustapha Amouche. Parmi les multiples inconnus de l'après Bouteflika, bien sûr, le comportement de l'armée face à un mouvement qui prend les allures d'une révolution. La population ne considère pas l'armée comme un adversaire, tout en lui demandant de ne plus s'impliquer dans la gestion de la transition. Question, quel est précisément le rôle de cette armée aujourd'hui? L'armée est devenue un arbitre ou l'organisatrice autoproclamée de la succession?
Moustapha Amouche. Cette semaine que les Algériens manifestent chaque vendredi, et organise aussi des manifestations dans la semaine, entre les vendredis, la position de l'armée a évolué justement sous l'influence du mouvement des Algériens. Il faut savoir qu'entre 12 et 18 millions sortent chaque semaine pour manifester dans le calme, dans l'organisation, mais aussi font montre d'une certaine détermination qui a fini par convaincre l'armée algérienne que du sérieux et de la profondeur de ce mouvement et cette armée a fini à prendre fait et cause pour le mouvement pour le changement qu'expriment les manifestations. Donc après une certaine hésitation, la hiérarchie de l'armée nationale a décidé de s'aligner sur le point de vue de la population et a demandé au président de se soumettre à l'application de l'article 102.
Je reviens
de l'extérieur de la manifestation d'Alger pour vous parler, et le slogan dominant est aujourd'hui en arabe Shab Yurid Irohuga. Le peuple demande à ce qu'ils partent tous. C'est ça le slogan essentiel de la manifestation des Algériens. C'est-à-dire ce slogan vise l'ensemble des résidus du système qui sont reportés par la solution constitutionnelle pour assurer la transition prévue par la Constitution, c'est-à-dire la gestion du pays pendant les 3 mois à venir et la gestion de la transition vers une nouvelle Constitution.
Merci.
Parce qu'il est acquis.
Oui.
Pardon?
Oui, d'accord, mais jusqu'où peut aller cette armée? Parce que est-ce que cette armée a réellement intérêt à la fin du système tel que le réclame le mouvement de contestation, un système que cette armée a soutenu et même conforté depuis des décennies?
Objectivement, l'armée aujourd'hui a intérêt à participer, à prendre en charge sa partie de ce devoir de rupture, parce que aujourd'hui, la nature de la révolution qui se passe en Algérie ne laisse pas
Ne laisse pas de choix à l'armée. Ne laisse pas de choix à l'armée.
À l'armée, voilà, parce que la détermination, la résolution de toute cette masse de manifestants est évidente. Quand on assiste, quand on observe le comportement des Algériens,
ils sont déterminés. Les Algériens qui étaient encore dans la rue vendredi, vous l'avez souligné, et qui appellent au départ de ce qu'ils appellent les 3B, Noureddine Bedoui, le Premier ministre, Abdelkader Ben Salah, le président du Sénat, et Tayeb Belaïd, qui est le président du Conseil constitutionnel.
Voilà.
Mais est-ce que la démission du président, la démission éventuelle, je le dis, du président du Sénat, qui est le successeur constitutionnel en cas donc, de vacance de pouvoir, est-ce que cela ne risque pas de créer une grosse crise institutionnelle?
C'est-à-dire que la revendication populaire n'est pas, c'est-à-dire que le conformisme constitutionnaliste ne constitue pas une contrainte pour les Algériens veulent que la période transitoire soit prise en charge.
Oui, mais ma question était de savoir si le président du Sénat, qui est légalement successeur prévu par la Constitution...
C'est le président du Conseil constitutionnel.
Voilà.
C'est le président du Conseil
constitutionnel. D'accord, mais s'il démissionne, qui va donc prendre la succession?
Qui est considéré, lui aussi, comme une figure représentative du régime. Donc, le passage de flambeau du président du Sénat à l'actuel président du Conseil constitutionnel, le 3e B... comme on dit ici, n'est pas considéré comme une solution. Donc, c'est pour ça que les manifestants appellent à un départ collectif.
J'étais en train de demander, que va-t-il se passer, donc Francis demandait, et maintenant, que va-t-il se passer si le successeur constitutionnel répond à la demande de manifestants, c'est-à-dire celle de démissionner? Est-ce que cela ne risque pas de conduire à une grosse crise institutionnelle et ouvrir peut-être une période d'incertitude pour l'Algérie?
Non, je pense que l'armée qui est en charge de la gestion de la crise peut très bien concevoir la qualité des personnes qui doivent prendre en charge cette période transitoire.
L'armée qu'on veut mettre de côté est l'arbitre de l'avenir politique de l'Algérie.
Elle n'est pas l'arbitre de l'Algérie puisque c'est la rue qui envoie les messages politiques que l'armée traduit en action. Mais le départ du régime dans sa globalité est une revendication qui vient de la rue.
Merci.
Ce n'est pas une initiative de l'armée.
Oui. Une question à Pape Biram Touré. Pape Biram Touré, pensez-vous que l'armée peut, comme ça, je dirais, intégrer jusqu'au bout la revendication populaire et agir exclusivement selon cette revendication? Jusqu'où peut aller cette armée, selon vous, dans ce...
Moustapha, oui, Francis s'adresse à M. Touré.
Oui,
Pape Biram Touré, monsieur le député.
Ah,
oui,
d'accord, ok.
S'il vous plaît. Je dis qu'il y a une situation quand même très difficile dans ce pays, donc qui connaît une crise politique, institutionnelle, et qui, de mon point de vue, devrait arriver à sortir de l'impasse et puis dans la paix et dans la passivité. Donc, et cela aussi, je pense que revient aux acteurs, donc aussi bien politiques que de la population, de faire en sorte de sauvegarder. Donc ce pays, qui est quand même un pays développé. Maintenant, c'est vrai, il se pose un problème constitutionnel parce que il y a la constitution qui est d'une part et qui prévoit quand même en cas
de
vacances de pouvoir que des dispositions soient prises et qu'à terme des élections soient
organisées. Mais ce schéma est rejeté par la population.
Oui, de l'autre côté, il y a aussi les manifestants qui exigent effectivement qu'ils fassent des exigences pour que le départ de tout le système. Alors il faut quand même qu'un juste milieu soit trouvé. Il sera très difficile
Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans le scénario qu'on a vu en Égypte où l'armée, à un moment donné, est intervenue comme l'arbitre, allant jusqu'à confisquer ce qu'on appelait à l'époque en Égypte une révolution ?
Oui, en tout cas, dans cette situation, on peut, de mon point de vue, tous les scénarios peuvent être possibles. Mais je pense que l'État ou le système actuel a montré sa bonne volonté et ses dispositions d'écouter le peuple. Hein. Donc, je pense qu'il y a une première annonce, de mon point de vue, du président. Donc,
sous la pression de l'armée.
Oui, je pense que je pense que le président avait
retiré sa candidature.
Et puis, je pense que par la suite, il y a eu la demande de l'armée de la démission, qui, dans un premier temps, n'accepte pas et que par la suite a cédé. Et que je pense qu'il y a eu cette démission récente. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une écoute, une oreille. Maintenant, il y a la population qui n'est pas tout à fait satisfaite de cela et qui exige que vraiment que le système parte. Alors, c'est un problème.
Et parlant du système qui doit partir, Mustapha, en 30 secondes, peut-on mettre, brutalement fin au régime, à un système en place depuis 20 ans, sans compromettre la paix et la stabilité en Algérie ?
Je crois que la paix et la stabilité ne sont pas compromises. Le choix pour une espèce de révolution pacifique a été fait. Donc, malgré le nombre de manifestants, il n'y a jamais eu le moindre incident dans toutes les villes du pays. Je crois que ce risque a été pris en charge par la population elle-même. C'est la masse de gens qui fait sa force plutôt que sa violence.
Merci.
Et dans la société, je voulais juste ajouter que dans la
Pour
société,
terminer.
il y a une expression représentative des aspirations de tout ce peuple qui manifeste et l'armée ferait bien et le fera certainement de ne pas aller s'inspirer que des politiques que des hommes et femmes politiques du Sérail et qu'elles devraient regarder à ce que produit la société comme élite et il y a de quoi gérer une transition de façon intelligente.
Et apaisée, sans violence. Merci beaucoup. On va rapidement passer au dernier sujet. Les attaques répétées auxquelles le Burkina Faso est confronté a poussé le président à consulter l'opposition et la majorité pour tenter de trouver une solution. Cette semaine, au moins 62 personnes ont péri vers Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, lors d'une attaque. D'autres ont été enlevées ou blessées. Environ 300 personnes ont fui par crainte de nouvelles attaques. Question pour vous, Monsieur député Touré, pourquoi ces consultations maintenant ? Est-ce qu'elles ne sont pas calculées ? On sait que les présidentielles, c'est dans un an. Est-ce que cette échéance avec l'obligation de défendre le bilan le moment venu n'a-t-elle peut-être pas mis la pression sur le président Kaboré ?
Bon, je ne connais pas très bien la situation politique, mais je pense qu'aussi il y a ces questions de sécurité qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs politiques d'abord pour avoir une situation...
Oui, on parle bien de contexte sécuritaire qui pousse le président à consulter à un an de la présidentielle. Est-ce qu'il y a un lien ?
Je ne pense pas. Je pense que ça doit être une question de sécurité purement nationale. Et vous savez, il y a une menace d'insécurité dans la sous-région et que les pays qui sont... quand même des pays africains qui partagent cet espace-là. Donc, je pense que conjuguent leurs forces pour faire face à ces violences, à cette insécurité. Donc, raison de plus que le président, effectivement, qui, de mon point de vue, doit appeler l'ensemble des acteurs, comme il l'a fait, et de discuter et de, d'échanger et d'avoir des projets communs sur la question de la sécurité nationale, parce que c'est des questions essentiellement centrales, sans quoi rien n'est possible que des ambitions politiques, que ce soit le développement, s'il n'y a pas de sécurité. Je pense que c'est le pilier commun et qui nécessite la mobilisation de tous. Je pense que c'est dans ce sens que je comprends un peu l'appel du président.
Francis,
Monsieur le député, alors aujourd'hui on voit bien que ces formes de violence sont de plus en plus complexes. Il y avait la lutte contre le terrorisme. Maintenant, il faut évidemment faire face à ces affrontements intercommunautaires. On le voit au Burkina Faso, comme on le voit également au Mali. Comment vous expliquez que le système traditionnel de règlement de conflits entre communautés ou populations voisines ne fonctionne plus? Et de quels outils disposent aujourd'hui les États pour mettre fin à ces nouvelles formes de violence?
Oui, moi je pense que c'est une menace, hein, donc pour laquelle aucun pays n'est épargné, et notamment dans les zones où vraiment ces menaces-là se sont manifestées et s'activent. Donc je pense que la première réponse, c'est que les pays puissent, en tout cas autour des cadres communautaires qu'ils disposent, de renforcer leur dispositif de sécurité pour faire face à ces types de violences, pour faire face à ces
terrorisme. Renforcer le dispositif de sécurité des populations, des communautés?
Mais des communautés et même de la CEDEAO d'abord, et des missions d'intervention communautaire.
Vous avez dû noter, monsieur le député, que on constate que les régions concernées par ces violences sont généralement celles où l'absence de l'État a été constatée depuis les indépendances parfois. Le défi pour les États, au fond, c'est comment rattraper ce déficit de présence auprès de sa population et leur assurer désormais la sécurité.
Oui, mais d'abord, il faut quand même une politique de sécurité par rapport à cette menace qui est une menace internationale, il faut le reconnaître, qui, si on ne prend pas garde, viendra renforcer ces micro-menaces qui existent dans nos pays. Je pense qu'il faut un cadre unitaire pour quand même barrer la route à ces grands bandits, à ces grands terroristes qui viennent donc avec des moyens, qui viennent avec des organisations. Maintenant, effectivement, il y a des politiques à mener dans nos pays pour que ces zones qui sont des zones frontalières, qui sont des zones qui se concernent comme, qui se sentent comme étant délaissées parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'infrastructure, il y a une équité sociale dans ces zones périphériques, donc se sentent comme des localités à part entière, donc soient prises en compte dans les politiques publiques. Donc il faut que dans leur distribution des ressources, que ces pays frontaliers soient prises en compte, et que maintenant aussi qu'il y ait un renforcement de dispositifs donc de sécurité dans ces pays. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, parce que c'est une menace aussi donc qui est là et qui est amplifiée par des organisations internationales qui cherchent à mener aussi donc cette insécurité.
Moustapha, l'Algérie a connu dans les années 90 ce qu'on appelle les années noires. Aujourd'hui, c'est l'appel à la stabilité. Quel est le regard que vous portez dans cette insécurité au Burkina, mais dans tout le Sahel?
En fait, le terrorisme et le fait d'organisation terroriste, d'abord islamiste, il opère dans un espace global, mais se concentre surtout là où l'État est faible et là où la solidarité commune, la sociale est faible. Et il est à la frontière du Burkina Faso. Il exploite les avatars sociologiques qu'il trouve. Et il n'y a pas de mystère en matière de réponse à l'insécurité qui est du fait du terrorisme. C'est le renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme. Et dans un deuxième temps,
quand vous dites renforcement, en quelques mots, c'est quels moyens qu'il faut renforcer, peut-être partant de l'expérience de votre pays, l'Algérie? Allô, Moustapha? Peut-être nous l'avons perdu. Moustapha, on va conclure avec vous sur ce sujet. Monsieur Touré?
Je pense que c'est une question qui interpelle tout le monde, notamment les pays du Sahel, qui doivent être solidaires et définir ensemble des politiques de sécurité comment les mettre en œuvre, mais aussi...
Tout cela est fait, il y a même une force du G5 Sahel, mais qui manque de financement.
Oui, justement, c'est que les États, doivent le renforcer. Quand on parle de renforcement, c'est un renforcement de moyens, aussi bien des moyens en matériel, en finance et en moyens humains. Et que chaque pays aussi devra renforcer son dispositif de sécurité, parce qu'il est, déjà circoncis dans un territoire où il y a des frontières qui sont vastes, et que je pense que il est important que les pays renforcent leur sécurité. Merci. Et dotent beaucoup plus de moyens aux forces de l'ordre et de sécurité, en ressources humaines aussi, en renforcement. Et je pense que de se mettre à niveau par rapport aux nouvelles formes de criminalité, je pense qu'il y a un renforcement de capacité aussi qui doit être permanent, parce que c'est des organisations qui utilisent de moyens un peu technologiques de pointe.
Merci beaucoup. Francis, c'est le moment d'écouter les réactions de nos auditeurs.
Les réactions, les messages recueillis et livrés à présent par un nouveau venu dans l'émission.
Oui, le successeur de Richard.
Voilà, Didier Ladislas Lando, un nom qu'il faut désormais retenir, à qui nous souhaitons la bienvenue. Didier Ladislas Lando, c'est à vous.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sénégal, Sangaré Albert estime que le chômage, la vie chère, la libération des opposants et la cohésion sociale sont les défis que doivent relever le président Macky Sall. Sibé Nabé demande à notre invité si la main tendue de Macky Sall à l'opposition pour un dialogue politique est sincère. Issagna Djibril de son côté s'interroge sur le sort que Macky Sall réserve à certains de ses soutiens qui sont épinglés par les corps de contrôle de l'État. Algérie, Charles Bazema estime que l'avenir du pays est dans les mains de l'armée, car s'il n'avait pas fait pression, Bouteflika allait demeurer au pouvoir. Bourante Palewane Bangono, quant à lui, appelle le peuple à ne pas crier victoire trop tôt. Pour notre internaute de Conakry, les Algériens doivent exiger que l'armée se tienne à l'écart du processus électoral. Burkina Adraman Bakoum Koulibaly appelle au dialogue et à une réconciliation nationale, seul gage pour lui de la paix et de la sécurité. Merci à Mamadou Mbaye, Alassane Sanogo et Lamara Yambereng qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à vous.
Merci Didier Ladislas Lando. C'était un beau baptême, hein, c'est bien.
On va laisser...
Une conclusion générale, oui. Monsieur le député, c'est la tradition, en quelques secondes.
Avec peut-être une très brève réponse sur la question de Issagna Djibril. Qu'est-ce que le président, quel sort il va réserver à ses proches épinglés par le contrôle de l'État?
Mais il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de personne épinglée par en tout cas, de corps de contrôle, en tout cas connu à mon niveau. Quand l'IGE a produit les rapports, dernièrement, tous les rapports étaient transmis, comme l'avait souhaité l'IGE. Et je pense qu'un des rapports a fait l'objet d'une poursuite judiciaire et que d'autres ont fait l'objet, en tout cas...
L'IGE, c'est l'inspection générale des enquêtes.
L'inspection générale d'État. D'accord. Et il faut le dire, il y a même parmi des gens, des proches du président qui répondent tous les jours à la justice. Merci. Et qui vont rendre compte de leur gestion. Hein. Donc, mais ce n'est pas connu parce que tout simplement, ce n'est pas des opposants, ils ne sont pas médiatisés. Mais je pense qu'il n'y a pas de protégé pour Macky Sall. Merci. Tous les gens seront en tout cas égaux devant la loi.
Merci.
Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Nous étions en compagnie de Pape Biram Touré, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, vice-président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Merci à notre confrère Moustapha Amouche qui est avec nous au téléphone depuis Alger, chroniqueur au quotidien algérien Liberté. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop et chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Et comme l'on dit, hein, c'est une expression consacrée, bon baiser de Brazzaville.
Merci, moi Namboka. Et vous serez de retour à Paris, et c'est bien des studios de Africa Radio à Paris que vous serez en notre campagne. Bon week-end à tous.
Tout à fait.
Et bon retour, Francis.
Au revoir.
Au revoir.
Merci. Au revoir.